Donc oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Vasiliki, mais on m'appelle Vicky. Mais mon prénom donc officiel de baptême, c'est Vasiliki Markaki. Et je suis doctorante en sciences du langage, ici au laboratoire Ricard. Je travaille sur les collaborations professionnelles plurilingues. Donc je suis en fait des managers d'industrie pharmaceutique internationale et on travaille en fait avec eux sur les collaborations, les prises de décision. Donc c'est vrai que mon terrain, c'est pas les écoles dans un premier temps, mais je suis venue ici aujourd'hui vous parler d'une approche qui est l'analyse conversationnelle. Je vais revenir au niveau de l'intitulé. Et de certains concepts et d'une méthodologie qui peuvent vous être utiles justement pour vos formations. Si j'intitule donc mon intervention langage et travail, c'est pour attirer en fait tout de suite votre attention en fait que le langage, indépendamment de la langue parlée, la langue impliquée dans une interaction, c'est une ressource qui est aussi importante au même titre que les gestes, les regards, et l'utilisation d'autres outils, par exemple, je ne sais pas, d'outils pédagogiques que vous pouvez avoir à votre disposition pour faire une formation. De plus, vos interventions et vos formations ont comme objet cette même ressource. Donc, vous utilisez les langages pour former et en même temps, vous formez sur des pratiques langagières entre les enseignants et les élèves. Donc, le langage est pour vous une ressource et un objet. Et plus précisément, en fait, l'objet visé de vos formations, si je comprends bien, ce sont donc les pratiques langagières interculturelles entre les enseignants et les élèves, ou, comme on peut l'appeler de manière plus générale, la communication interculturelle en classe. Une, donc, de vos difficultés en tant que formateur, est de tenir compte des différentes expérience de vos stagiaires et d'essayer en fait de faire converger tout cela avec des recommandations communes. Parce que j'imagine que vous avez des stagiaires des classes, enfin des écoles différentes. C'est bien le cas. Voilà. Donc en fait, chacun a des expériences différentes avec, même si c'est la même langue impliquée, c'est des personnes différentes et donc ils ont des vécus différents, des expériences différentes. Sur, même si c'est sur une même langue, parfois ça peut être plusieurs langues. Et donc, vous, c'est déjà votre premier défi. Donc, on recherche, on distingue deux types d'études de manière générale. On distingue ce qu'on appelle les études cross-culturelles et les études interculturelles. Nous, on va se positionner au niveau du deuxième cas, les études interculturelles. Dans le premier cas, c'est quand on étudie en fait une activité dans plusieurs pays, par exemple les interactions en classe en Allemagne et en France, d'accord ? Dans le deuxième cas, c'est quand on va étudier la manière dont les locuteurs de différentes cultures vont gérer ensemble une activité. Et là, pour le coup, ça vous rajoute une deuxième difficulté dans votre travail de formateur, c'est que vous devez tenir compte en plus la spécificité des activités de chaque enseignant. Donc, comment s'en sortir avec donc deux spécificités, les spécificités culturelles au sein de chaque classe et les spécificités liées à l'activité en cours, qui peut être, par exemple, je dis ça, enfin, je suis assez ignorante de la matière, mais ça peut être la matière enseignée, ou ça peut être le nombre de participants, ou d'autres éléments contextuels, comme par exemple l'espace dans lequel le lieu en cours, etc. Ce que nous vous proposons ici, c'est un modèle alternatif issu des travaux de recherche en analyse conversationnelle. Les termes analyse conversationnelle, vous avez dû en entendre parler beaucoup, je pense, pendant ces derniers jours. En l'occurrence ici, moi, je l'utilise, ça fait vraiment référence à une approche d'origine américaine et anglo-saxonne au départ, et maintenant il y a des travaux évidemment en français aussi. Et en fait, comme son nom ne l'indique pas, on n'étudie pas uniquement la conversation ou les dialogues, mais tout ce qui implique le verbal, le verbal et le non-verbal dans une interaction. C'est pas seulement donc la conversation, mais c'est aussi les gestes et l'utilisation des artefacts. Donc c'est vrai que ça peut porter confusion le nom. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention tout de suite à ça. Donc, ce qui est important, et ça va être le seul slide théorique, c'est en fait Je vais attirer votre attention sur 6 points importants méthodologiques de cette approche qui sont donc très très importants. D'une part, c'est la primauté des activités interactionnelles, c'est qu'en analyse conversationnelle, justement, on donne une importance primordiale à l'interaction, on regarde également les effets d'interaction qu'il y a entre les séquences et entre les participants. D'autre part, c'est la prise en compte du contexte. Donc ça va être aussi bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'espace dans lequel se déroule une interaction. Ça peut être aussi le temps, la date, ça peut être le nombre de participants, les catégories a priori et la manière dont elles évoluent également, de participants au cours de l'interaction, etc. Dans cette approche également, comme je vous ai dit, le langage est utilisé, est considéré comme une ressource au même titre que les gestes, les regards et d'autres outils. En fait, surtout en tant que formateur, mais même dans le travail de manière générale, on va utiliser le langage pour accomplir une tâche. De la même manière qu'on va utiliser les gestes pour montrer, pointer, ou les stylos, ou les tableaux. D'accord ? C'est un peu cette idée-là. Avant-dernier point, c'est la pertinence des détails. C'est qu'avec cette approche-là, nous travaillons surtout avec des données vidéo. Donc, nous rentrons vraiment dans des descriptions très détaillées et nous cherchons l'ordre interactionnel à travers justement les différents détails qui peuvent ressortir et qui ne sont pas visibles tout de suite par la simple observation, mais qui peuvent être en fait rendus visibles grâce à une observation systématique de données vidéo, par exemple, ou une écoute systématique répétitive de données audio, et également l'utilisation des transcriptions. Donc, vous avez dû aussi en avoir des transcriptions. Donc, c'est un outil d'analyste, mettre par écrit tout ce qu'on entend et tout ce qu'on on entend dire et ce qu'on voit faire. Donc, on les met par écrit de sorte à pouvoir aussi revenir dessus et faire aussi des analyses comparées avec des collègues, par exemple, ou d'autres chercheurs dans lesquels ils recherchent. Et enfin, le dernier point, c'est la centralité donc, de l'organisation temporelle et séquentielle de l'interaction. L'exemple que je prends parce qu'il est, il est simple, c'est par exemple une paire adjacente, deux séquences qui se suivent, c'est la question-réponse. Si un participant pose une question, il induit à ce que l'autre participant en face de lui, admettons nous avons deux locuteurs, donc il induit à ce que l'autre participant lui donne une réponse. D'accord ? Ça, de manière générale, c'est admis, ça ne nous choque pas. De cette manière-là, on peut dire que le premier locuteur peut avoir un effet prospectif sur l'action qu'il va faire le deuxième locuteur. Donc, en posant une question, j'oblige, entre guillemets, je vais utiliser du moins un peu mieux, j'oblige l'autre de me donner une réponse. Mais heureusement, les choses ne sont pas figées. Le deuxième locuteur peut venir de manière rétrospective et influencer ce que je fais au départ. Par exemple, si je pose la question « Il est quelle heure ?» et l'autre répond « Ah mince, je dois partir tout de suite. » De cette manière-là, en fait, il a traité ma question, pas comme une question, mais comme un rappel, par exemple. Du coup, quand on fait l'analyse de ce simple paire de séquences, question-réponse, on peut, en fonction de la situation et en fonction donc du contexte qu'on est en train d'étudier, avoir une analyse totalement différente. Et ça, il faut l'imaginer après à une plus grande échelle. D'accord ? Donc, notre focus c'est justement essayer de vous montrer comment vous pouvez utiliser en formation l'exploitation donc, des situations authentiques, d'accord ? En vous focalisant sur l'interaction. Et vous allez peut-être pouvoir faire ça, en fait, en essayant de faire ressortir les modalités par lesquelles les participants conduisent leurs interactions au fil de la rencontre. Ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est de faire un rapide tour de table Parfait. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vais arrêter le rapide tour de table ici. C'était vraiment rapide. C'était juste en fait pour vous montrer que il y a vraiment un effet de dépendance entre ce qu'une personne fait et l'autre fait. Là, je donnais une instruction qui n'était pas complète. Il y a eu des réactions. Il aurait pu ne pas en avoir. Il aurait pu aussi, c'est déjà arrivé, que les personnes se lancent tout de suite. Ce qui peut avoir une influence, c'est aussi la disposition en table. De manière générale, quand nous sommes en cercle, ça paraît beaucoup plus évident de démarrer d'un bout et de poursuivre. Autre chose très intéressante, je ne vous ai pas demandé les informations à donner, vous avez choisi vous-même, nom, prénom, voilà, et qualité. Voilà. Donc après, la personne qui a suivi a repris exactement le même modèle. Vous voyez, de cette manière-là, en fait, évidemment, on peut à chaque fois influencer aussi de manière, comme je vous disais, par rapport à la paire question-réponse, venir et changer ce qui est en train de se passer, changer le cours de choses, rajouter une information, rajouter l'âge, par exemple, et du coup, la personne après, elle aura le choix de le prendre ou pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans le processus d'une communication, déjà, vous, de votre côté, en tant que formateur, vous mobilisez un ensemble de connaissances. Un ensemble de connaissances, donc, sur les aspects linguistiques, par rapport au français, et aussi les autres langues auxquelles vous avez à faire face, juridiques, psychologiques, sociologiques. Donc, ce sont des connaissances qui sont liées sur les questions abordées lors de l'échange avec vos stagiaires. D'accord? Mais c'est également des connaissances que vous avez sur l'activité en cours. Donc, comme typiquement là, quand on demande de faire un rapide tour de table de présentation, si on précise, et à ce moment-là, on sait que de manière générale, on va donner nom, prénom, qualité, voilà, voilà. Et on est en train d'exhiber de manière vraiment locale, ça est en train d'émerger les connaissances que nous avons. Est-ce que nous considérons nous comme étant pertinents pour l'activité en cours. Et les autres participants peuvent s'aligner à ça ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans chaque cas comment ça se passe et quelles sont les spécificités, justement. Donc, pareil, du côté des participants, ça va être dans votre cas vos stagiaires, mais ça peut être aussi des choses que vous pouvez transposer directement entre les enseignants qui sont vos stagiaires et leurs élèves. Donc, eux aussi, ils ont un ensemble de connaissances qui seront mobilisées pendant le cours qui est en train de se faire et qui sera aussi des connaissances, évidemment, liées au cours, mais également liées au langage, et psychologique, sociologique, etc. Et pareil, également, liées aux questions abordées lors de l'échange, je ne sais pas, par exemple, les mathématiques, ou l'activité en cours, c'est-à-dire le cours, comment il est en train de se dérouler. C'est que je peux prendre la parole pendant que l'enseignant parle ou je ne peux pas prendre la parole. Je dois les regarder dans les yeux ou je ne dois pas les regarder dans les yeux par respect. Vous voyez? Et dans ces cas-là, les connaissances peuvent coïncider ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on essaye en fait de documenter l'ensemble des connaissances que tous les participants ont dans une classe, plus celle des intervenants, c'est un travail extrêmement complexe qui peut prendre vraiment plusieurs mois et très difficile à accomplir. Et encore, on n'est pas sûr que les informations que nous aurons seront vraiment objectives. Donc notre seul moyen, en tant que formateur, et pour aussi essayer vraiment d'apporter de l'aide aux stagiaires, c'est de se concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Et quand je dis ici et maintenant, c'est en fait, une étude, par exemple, d'interaction en classe. En analyse conversationnelle, on va utiliser les enregistrements pour ça. On va enregistrer et on va essayer d'étudier l'interaction en classe, par exemple. Mais je vais revenir là-dessus. Donc, mais de la même manière, évidemment, nous pouvons aussi avoir une étude au fil du temps, une perspective plus longitudinale. D'accord? Et essayer de suivre, par exemple, dans le deuxième cas, l'évolution d'une classe. Mais je ne sais pas si vous, dans votre métier, vous avez cette possibilité-là. Vous êtes plutôt... Est-ce que vous avez la possibilité de suivre une classe? Est-ce que c'est toujours les mêmes stagiaires que vous avez? Ou c'est à chaque fois des nouvelles personnes qui arrivent, en fait, pour les formations? Les deux, ça peut être les deux. Donc après, c'est à vous aussi de voir, en fonction de votre public et de vos objectifs, la manière dont vous pouvez... si je parle comme ça, vous m'entendez?
Je préfère.
Non, vous m'entendez pas? Non? Allô? Ah, pardon. Allô? Donc, après, c'est en fonction donc, de vos objectifs, vous pouvez soit avoir des exemples de plusieurs classes, d'accord, à un moment donné, soit suivre une classe. Et comme, je ne sais plus si je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de recette miracle pour la formation professionnelle de manière générale. Et comme ça dépend vraiment des personnes que vous avez en face, bah, vous êtes aussi un peu lié et vous devez aussi aller voir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc, dans l'ensemble, ce que nous allons faire, on va essayer de comprendre ensemble le mécanisme des échanges verbaux et non verbaux entre les participants. Et dans un deuxième temps, je vais en fait essayer de vous parler de manière assez brève de la pratique de l'enregistrement et comment en fait les enregistrements vidéo, vous pouvez les intégrer dans vos pratiques de formation en fait et l'utiliser comme un outil pour sensibiliser les enseignants à leurs propres pratiques. Alors, ce que je vous demande, c'est de vous mettre à la place donc de quelqu'un qui observe cette situation que je vais vous montrer tout de suite et en fait essayer d'avoir un œil critique et le plus objectif possible et me dire en fait s'il y a conflit d'après vous dans cette situation qui se déroule en français. Après on aura des exemples avec d'autres langues. Donc s'il y a un conflit et quels sont d'après vous, selon ce court extrait qui dure 30 secondes, les causes du conflit et éventuellement, est-ce que vous avez déjà des recommandations pour proposer de solutions, de résolutions? Voilà. Donc, c'est une réunion qui vient d'une rencontre d'agronomes qui, en fait, travaillent sur un logiciel destiné à des agronomes. Donc les agronomes essayent d'optimiser les différents les productions agricoles et ils ont besoin aussi d'outils pour pouvoir travailler en amont et voir enfin comment optimiser les je sais pas les changements dans le paysage ou je sais pas où mettre les animaux ou faire les cultures etc. Mais ce qu'on va voir c'est que ce qu'ils disent c'est pas vraiment ce qui compte le plus tout de suite, en tout cas pas dans cet extrait là. Donc, je vais vous laisser regarder.
On te dit, si on rentre par l'espace, oui. On considère les quatre catégories.
Quoi?
S'il te plaît, laisse-moi finir. On considère les quatre catégories et on fait tourner la machine et la machine nous sort.
La technocratie en route. Je pose quatre catégories et je fais. Explique-moi pourquoi quatre catégories. Non, ne te fâche pas, mais c'est quand même vrai. Ah non, là, je ne voulais pas fâcher. Il n'y a pas quatre catégories en soi. C'est accessible ou pas, c'est tout. Il y en a trois.
Si c'est accessible
ou
pas, il y en a deux.
En plus,
moi, il y a... Je le remontre une seule fois et on en discute après.
Si on rentre par l'espace, oui. On considère les quatre catégories.
Pourquoi?
S'il te plaît, laisse-moi finir. On considère les quatre catégories et on fait tourner la machine et la machine nous sort.
La technocratie en route. Je pose quatre catégories et je fais. Explique-moi pourquoi quatre catégories. Non, ne te fâche pas, mais c'est quand même vrai. Ah non, là, je ne voulais pas fâcher. Il n'y a pas quatre catégories en soi. C'est accessible ou pas, c'est tout. Il y en a trois.
Si c'est accessible ou pas, il y en a deux.
En plus, moi, il y a...
Alors, des commentaires. Est-ce qu'il y a conflit? Quelles sont, d'après vous, les raisons de ces conflits? Et bon, après, les suggestions pour la résolution, on verra après. D'où l'intérêt, justement, de la vidéo et la richesse que la vidéo peut aussi apporter dans vos actions de formation. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, ils disent ce qui est important pour eux. Le fait qu'elles s'en va, ils le thématisent. Ils peuvent les thématiser avec des mots de manière explicite, comme c'est le cas ici, mais ils peuvent aussi avoir une autre réaction. Donc on peut entendre la personne peut dire « Attends, je te suis » ou enfin, on peut imaginer plein d'autres façons de réagir, oui. Oui, effectivement, ouais. On voit justement que les regards, enfin la posture est très importante. Alors, mais justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que même quand on fait une formation avec des stagiaires qui viennent avec leurs expériences, on ne connaît pas les enjeux de chacun. Et on est face à ces difficultés, on est face à des nouveaux faits, des faits qui sont relatés, enfin décrits par une seule personne, donc on ne connaît pas non plus exactement ce qui s'est passé, qui sont très courts. Voilà, donc on est face à ces difficultés. Donc, oui, alors, mais c'est pour moi, je me dis aussi, autant que formateur, on a des extraits de vie professionnelle des stagiaires devant nous. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi un peu de réfléchir ensemble là-dessus, voir comment on fait face à ça. Parce que là, on a juste... Donc, c'est à titre d'exemple, et c'est pas parfait, on va pas tout découvrir avec cet extrait. Mais, c'est admettons, on a que ça, et on est quand même en face de ces personnes, et on doit leur dire qu'est-ce qui s'est passé, on doit leur décrire ce qui s'est passé, et du coup, par conséquent, proposer aussi éventuellement une solution. Comment on s'y prend, qu'est-ce que vous proposez à ces personnes-là? Admettons, voilà, on les regarde, on a vu l'interaction en train de se faire, ou on l'a vu, on nous a montré qu'est cet extrait-là, et on nous dit, bon, ben voilà, il y a eu conflit, comment on fait pour changer? Quel est, notre objectif, c'est que les personnes, parce que nous, on n'est pas agronome, d'accord? Et notre objectif, en fait, c'est de leur dire, bah, comment communiquer mieux, comment s'en sortir de ces situations qui sont un peu verrouillées, en fait, interactionnellement. Parlant, elles sont verrouillées, il y a même rupture à la fin, d'accord? Moi, la question que je me pose, c'est que l'affectif, comme vous dites, il peut y avoir des questions de projection. Pour quelqu'un qui est pris dans une tâche professionnelle, comment faire pour faire ressortir la part affective impliquée dans l'interaction? Je suis d'accord qu'elle existe, hein, on est d'accord. Après, évidemment, elle existe et évidemment, en fait, il faut en tenir compte. Et de toute façon, je pense que tout ce qui vous est présenté ici, c'est des volets, enfin, c'est des points de vue différents, des entrées différentes pour comprendre comment les gens interagissent, d'accord? Là, donc ici, avec en tout cas l'approche d'analyse conversationnelle, l'affectivité, on peut pas la saisir parce qu'elle est pas visible. On va se concentrer uniquement sur tout ce qui est visible et observable, ou elle sera visible par un ensemble d'éléments. Mais ça sera après analyse. C'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on peut voir tout de suite, oui? De leur relation, non. Non, c'est en fait, ce qui se passe dans ces réunions-là, comme dans toute réunion, je pense, enfin, je pense qu'on fait tous l'expérience, c'est que, surtout s'il faut prendre des décisions rapides, ben, il y a de la tension. Après, ça, voilà, on résout le problème, on avance, il y a de nouveau de la tension. Là, en l'occurrence, bon, il y a une rupture. Mais voilà. En tout cas, il n'y a pas eu un point particulier. On les retrouvera si on prend l'ensemble de l'interaction. Alors, d'accord. Par contre, je pense qu'on a tous fait l'expérience des réunions ou de travail où quelqu'un est désigné comme animateur ou comme régulateur et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui prend cette place, qui fait le travail, comme vous dites. Donc, du coup, là aussi, c'est un élément, en effet. On peut compter là-dessus. Oui, il est vrai que le cadre institutionnel et les rapports hiérarchiques qui peuvent exister, tels qu'ils sont définis donc de manière formelle, d'une part, et après de manière émergente, d'autre part, vont contraindre, limiter l'interaction. Ils vont la configurer, d'accord? Ils vont lui donner une certaine forme. Le problème, c'est qu'en tant que formateur, est-ce que vous avez le temps, moi je reviens à chaque fois là-dessus, d'aller voir, faire l'état de la santé, de l'organisation de chaque école, par exemple de vos stagiaires, quand ils vous parlent donc de problèmes entre leurs élèves et eux-mêmes, par rapport aux langues, on va revenir. Donc là, on a deux niveaux d'approche. Vous voyez que quand on commence à interpréter les états des participants, très rapidement, on arrive avec des collègues à débattre là-dessus, ne pas être d'accord. Évidemment, au bout d'un moment, enfin, les choses, c'est pas non plus magique, et en connaissant les situations, on arrive à trouver les choses. Par contre, il y a un autre niveau qu'on n'a pas abordé, et que c'est justement ce qu'on essaye la ressource qu'on essaie de vous donner en plus grâce aux enregistrements pour pouvoir vous baser dessus pendant vos formations, c'est la description. Évidemment, une description, elle n'est jamais 100% objective. Et l'analyse conversationnelle ne fait pas que décrire. Mais une des forces méthodologiques qui est vraiment intéressante pour vous, aujourd'hui, c'est vraiment enregistrer et essayer de décrire de manière objective ce qui est en train de se passer et de voir les liens entre les participants sur la base de ce qui est visible et observable. Typiquement là, quand on va faire la transcription de cet extrait, on va voir, par exemple, que Paul, il va constamment, on appelle ça un chevauchement de paroles, d'accord, du fait qu'il va parler en même temps que l'autre personne qui est en train de parler avant qu'elle finisse sa phrase. Donc, quand on regarde Christian tout début, il dit alors, Viviane, je t'ai dit oui, si on rentre par l'espace. Après, il y a des caractères bizarres, c'est lié à la convention de transcription, qui sont justement des symboles totalement tributaires pour indiquer la manière dont les choses sont dites. Donc, quand il y a des majuscules, par exemple, c'est que c'est avec un volume fort. D'accord? Et quand il y a des petits points qui coupent les mots, c'est que c'est en fait un peu allongé. Donc, elle dit, je t'ai dit, si on rentre par l'espace. Et ça, c'est des petits éléments qui rajoutent aussi au fait qu'il y a une certaine intensité, il y a quelque chose qui est en train de se passer, pas tout à fait comme avant où elle parlait sans allonger, sans augmenter la voix, par exemple. On considère, donc, Christian, oui, elle continue, on considère les quatre catégories, et c'est à ce moment-là, avant qu'elle finisse son mot catégorie, vous voyez avec les crochets, parce que c'est aligné, donc au moment où on entend ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre qu'avec le casque, donc elle dit gorille, à ce moment-là, Paul dit pourquoi. Elle n'a même pas fini, en fait, son explication. Et il y a la question du pourquoi. Donc déjà, poser les questions. On a vu aussi, il y a plusieurs études dans les interviews, avec les politiques, où on voit, par exemple, que ça peut être très agressif, ça peut être une ressource, quelque chose qui est pratiqué pour agresser un peu, pour montrer qu'on n'est pas d'accord, en tout cas, même si ce n'est pas pour agresser. Donc pourquoi, en chevauchement. Et on voit qu'après, à nouveau en rouge. Donc, elle continue, la machine nous sort, et lui, il dit, voilà, là, la technocratie en route. Il fait un chevauchement, et en plus, sa contribution, dans ce qui est en train d'être dit, n'apporte rien de plus, en fait, dans l'explication ou dans les raisonnements de Viviane. Il est totalement désaffilié, donc il ne s'affilie pas du tout avec elle. Et en plus, voilà, il apporte un commentaire qui est un peu hors sujet, et c'est à ce moment-là où il y a les rires collectifs qui rajoutent justement dans ce tout. Ce qui est intéressant pour nous tous, enfin pour le formateur, c'est d'essayer de retrouver ces aspects-là dans l'interaction, dans les courts extraits. Ça nous évite d'une part de trop catégoriser les participants. Parce qu'admettons, si vous faites cette analyse avec des gens que vous avez en face de vous, si vous commencez à dire « oui, tu t'es laissé faire » et « oui, tu as été agressif », probablement, la personne ne va pas l'accepter. Elle va dire « ah non, je n'étais pas agressif. J'étais pas, non, non, je ne me suis pas laissé faire. » Même Viviane, elle va dire « non, non, je ne me suis pas laissé faire. » Ou elle va dire « oui, je suis victime de sexisme. » Ou elle va dire « enfin non, je ne suis pas victime de sexisme. » On ne sait pas. Parce qu'il y a en plus la perception qu'ont les personnes d'eux-mêmes, qu'on a de nous, on ne sait jamais la perception que les autres nous renvoient aussi. Vous voyez, il y a toujours des décalages, en fait. Le problème, c'est que si on n'a pas beaucoup de temps pour aller vérifier tout ça, ça peut être un moyen, et si c'est intéressant pour vous, ça peut être un moyen de venir voir ce qui se passe dans l'interaction, étape par étape, et leur dire, par exemple à Paul, ben voilà, en fait, tu as interrompu la parole de Viviane à plusieurs reprises. En interrompant la parole, bah, c'est quelque chose qui peut être considéré comme de l'agressivité, en tout cas de la désaffiliation. Ensuite, voilà, elle s'élève. Non, non, on est d'accord, hein, pardon, hein, si je n'ai pas voulu dire ça. Au contraire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout peut avoir une, être interprété différemment dans des situations différentes, en fait, dans chaque situation. Là, ce qui fait que c'est comme, interprété comme ça, c'est que d'une part, il y a la prosodie, le ton qui monte, d'accord ? Il parle de manière un peu plus rapide. Il y a les rires, il y a les chevauchements qui se suivent et qui ne contribuent pas justement à ce qui est en train de se faire. Parce qu'il peut y avoir un chevauchement, ce qu'on appelle la complétion collaborative d'un énoncé. Donc là, typiquement, elle dirait les quatre catégories et lui, il rajouterait et en plus, voilà, on peut, il irait un peu dans son sens, on dirait, hein, autre langage commun. Donc ça aussi, on peut le montrer, qu'on peut apporter aussi, enfin, c'est différent de couper la parole et de changer la thématique. C'est différent de couper la parole et de faire un commentaire risible, enfin, qui fait rire du coup tout le monde. La preuve, c'est qu'après, il y a des rires. Et c'est différent de faire un commentaire qui va apporter quelque chose, d'accord ? Tout en coupant la parole. Donc là, c'est dans cet extrait-là, s'il y a conflit, enfin, le conflit, c'est bien un gros mot, hein, c'est, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, et le seul truc qu'on peut se baser, c'est qu'elle s'en va. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qu'elle n'a pas apprécié, elle rompt l'interaction, elle sort du cadre, en fait. Et en plus, il dit « ne te fâche pas », il les thématise. Dans ce sens-là, on peut dire, les autres aussi ont compris qu'elle s'est fâchée, parce qu'il est dit. D'accord ? Mais s'il n'avait pas dit, effectivement, on pourrait dire « elle est sortie, ça se trouve, elle rigolait, enfin, je ne sais pas, faisait autre chose. » Bon, je vais continuer, parce qu'on a un petit problème de temps aussi. Donc, on essaye justement avec cette approche basée sur l'observation, les enregistrements et la transcription, de dégager des problèmes et du point de vue de membres, en fait. C'est-à-dire tels qu'ils peuvent être saisis dans l'interaction, dans l'intranscription. Ce qui nous intéresse, ce qui est pertinent pour le participant. Si la personne, dans ce cas-là, bon, c'est assez gros quand même parce qu'elle est partie, mais admettons, elle n'était pas partie. Et la personne ne lui disait pas « ne te fâche pas », on n'aurait aucun moyen de savoir si elle s'est vraiment fâchée, si ça s'arrêtait là et ça suivait. Si elle n'était pas partie, la personne lui disait « ne te fâche pas », du fait qu'il thématise de manière explicite, ben ça le rend pertinent. Et du coup, autant qu'analyste, on peut en tenir compte. Et se dire, en tout cas, on ne sait pas si elle s'est vraiment fâchée, mais en tout cas, c'est les participants le considèrent, le traitent comme ça, comme si elle s'est vraiment fâchée. Et c'est ça qui est important. Je prends un exemple là, c'est gros, il faut aller vite, 1h30, c'est difficile de tout montrer. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le... Est-ce que vous comprenez un peu le raisonnement qu'il y a derrière ça, en fait? Donc, en gros, il y a un ordre interactionnel, les choses n'arrivent pas par hasard. Les choses qui peuvent être normales dans une situation peuvent devenir anormales dans d'autres situations. De la même manière, quelqu'un qui est avec un étudiant... Enough, il n'a aucun problème. Et un autre enseignant avec le même peut avoir des problèmes, vous voyez, sans parler des différents cas. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un deuxième exemple que je vais vous analyser moi-même avant de repasser à un autre qu'on va voir ensemble. Matt, qui est ici, il est en train de faire un exposé dans une réunion. C'est une réunion internationale, donc de managers d'une industrie pharmaceutique. Et il rencontre en fait successivement plusieurs problèmes avec son PowerPoint. En 45 secondes qui dure l'extrait, on va voir en fait défiler plusieurs modèles possibles d'exposés qui vont présenter chacun des avantages et des désavantages. Je vous laisse regarder.
This is for quality assurance activities related to pharmaceutical responsibility and requiring presence of a qualified person.
You can go quickly on that.
Yes, I think all the things are the same in each country, so I think I will not change the model.
No problem.
No problem. Other activities, do I have to go to a wall?
Yes, please.
But okay, make available documents for tender provide support with your correctness. No? Yes? Yes. Go to you. Formalize the pharmacy. This is for quality assurance activities related to pharmaceutical responsibility and requiring presence of a qualified person.
You can go quickly.
Yes, I think all the things are the same in each country, so I think I will not. Other activities, do I have to go to a walk?
Yes,
but okay, make available documents for tender, provide support with true correctness. No? Yes? Go to you. Formalize the pharmacy.
On voit, il y a donc Mathieu qui projette dans un premier temps, il dit so oui, et c'est là où en fait il s'épanche vers son PowerPoint, il regarde un peu avant de commencer à parler. Donc il projette le point suivant, il dit qu'il va, enfin en gros il montre qu'il va y avoir une suite, parce qu'il dit so oui, il y a des hésitations, d'accord? Mais la suite ne vient pas tout de suite, d'accord? Il y a une pause, plus voilà les 2,2 secondes, tout en. Et sa posture laisse aussi du fait qu'il se penche comme ça en avant, il laisse penser que soit il découvre ou il redécouvre les slides qu'il est en train de lire, de regarder. D'accord ? Et ce n'est qu'au moment où il dit « now », qui est d'ailleurs confirmé par Laure, qu'on voit en fait qu'il est prêt, il passe au point suivant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le public s'oriente également à cette suite de PowerPoint. Il est en train de lire. Enfin, il est en train de regarder, il dit « so oui ». Et au moment où il dit « maintenant », une autre personne dit à voix basse, on entend uniquement au casque, grâce aux plusieurs caméras qui sont présentes, il dit « maintenant aussi ». Voilà, part, en fait. Donc, les participants ne restent pas impassibles quand quelqu'un fait, même quand quelqu'un fait une conférence. Alors, dans un premier temps, il lit le titre de la diapositive, hein, je ne veux pas vous relire. Et c'est justement à ce moment-là que deux participantes qu'on voit également sur la vidéo détournent le regard. Tout de suite, il y a des hésitations donc de Matt. Il dit E04, troisième ligne. 04, E08, 06, E09. Donc beaucoup d'hésitations. Où on peut se demander, est-ce qu'elles sont des hésitations rétrospective dans le sens parce qu'il a vu que les autres ont baissé les yeux, bah du coup ça a perturbé le cours de ce qu'il était en train de dire. Ou est-ce que c'est prospectif parce que quand on regarde ce qui suit, donc il pensait tout simplement au fait que toutes ces choses sont les mêmes dans tous les pays. Parce qu'il dit I think all these things are the same in each country. D'accord? Alors à ce moment-là, et Clémentine, en fait, elle saisit cette occasion et elle invite en fait Mathieu à accélérer sur cette partie en lui disant You can go quickly on that. Et Mathieu, il s'aligne et il essaye d'accélérer. Je passe un peu vite. Alors, du fait qu'il dit the same in its country, Clémentine. Elle ratifie, donc elle est d'accord avec, elle dit yeah, yeah, deux fois, en deuxième ligne. Et en fait, ce qu'elle est en train de faire, elle change à ce moment-là la diapositive de manière anticipée. Et en s'alignant donc avec la projection du Matt qui dit je ne veux pas dire les mêmes choses. Comme toutes les choses, c'est presque la même chose pour tous les pays, ben, je ne vais pas répéter les mêmes choses. Et du coup, c'est l'animatrice, Clémentine, qui change la diapositive. Or, avant, c'était toujours Mathieu qui a le petit bip là qui pour changer. Donc en français, Matt, il dit qu'il a la télécommande parce qu'il lui dit non, je peux changer moi-même. Elle dit ah pardon. Donc ce qui est très intéressant ici, c'est qu'au moment la réunion se passe en anglais. Elle est censée officiellement se dérouler en anglais. Et d'ailleurs de manière intéressante, quand on demande aux professionnels quelle langue vous parlez. Dans vos réunions, en entretien, ils disent tous, on parle que anglais. C'est intéressant parce que ces instants-là, ils se rappellent pas vraiment. Et c'est aussi parce que les changements de langue ont aussi une autre fonction. Le changement de langue, là, en l'occurrence, a permis de restreindre le cadre de participatif. Donc, en fait, de limiter les gens qui peuvent comprendre ce qui s'est dit. Et ça montre aussi, ça exhibe la connaissance de Mathieu que Clémentine parle français. Il exhibe en même temps que lui-même, il parle français en le parlant, d'accord? Et aussi, il limite un peu les effets négatifs qu'il peut y avoir du fait de faire un commentaire, une remarque à la chairwoman qui est aussi sa supérieure. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant de ce point de vue-là. Alors, et donc Mathieu se retourne vers le PPT en clôture. Donc il y a une reprise de l'exposé, mais il s'interrompt tout seul, parce qu'il lui dit non, pardon, voilà, il reprend, et il redemande, est-ce que je dois poursuivre ou pas? Clémentine, elle dit, oui, oui, s'il te plaît. Et Laure, qui est quelqu'un donc qui a aussi une fonction de dirigeant dans la société, mais qui en réalité dans la réunion, elle n'est pas censée être régulatrice par rapport à ce qu'on disait avant. Elle est d'ailleurs assise vraiment de l'autre côté, en face de Clémentine. Elle dit, bah si, si, il lisait tout. Elle est dit en français. Donc on voit en fait que les gens interagissent. C'est pas, ça ne se passe pas uniquement entre le présentateur et la chairwoman. Mais il y a aussi donc les autres personnes qui viennent influencer le cours de l'action. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que la décision de Mathieu face à cette double contrainte, Clémentine qui lui demande de passer ses points, et la personne qui a dit, mais qu'il a entendu peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, apparemment il a entendu parce qu'on l'entend dans les deux caméras, mais bon, ça après on ne sait pas, hein, c'est rien, de toute façon rien n'est définitif. Bon. On ne va pas non plus devenir trop relativiste. Bon, on se base sur des trucs et on avance. Et c'est surtout le fait de retrouver les mêmes phénomènes dans d'autres situations qui vont venir corroborer en fait nos hypothèses, d'accord, issues de ces analyses. Donc, ce qu'il va faire, en fait, il va lire la suite, mais de manière très, très rapide. Et de cette manière-là, en fait, il s'oriente à la double contrainte. D'une part, Clémentine, donc, il lui demande de passer vite. Et d'autre part, des personnes dans le public qui lui demandent quand même de lire ce qui est écrit et d'entendre ce qu'il a écrit. Voilà. Donc ça, c'est un peu la manière dont on peut faire une analyse très, très détaillée. On vous montre enfin, comment on prend la transcription étape par étape et on essaie de voir justement les effets séquentiels dans l'interaction. Vous voyez qu'il y a des effets... c'est très important ça parce que ce sont des effets qui peuvent être prospectifs. Donc la personne qui est en train de parler exhibe déjà en amont ce qui va suivre, mais aussi de manière rétrospective, c'est la personne qui est en train de parler exhibe aussi sa compréhension de ce qui a suivi, de ce qui a précédé. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est un exemple d'une autre réunion. Ça va être sans transcription. Je vais vous le montrer une fois et je voudrais qu'on discute, mais pas, enfin, 5-6 minutes, sur justement l'utilisation du langage et ses effets de changement de langue dans cette interaction. Donc, c'est dans une convention internationale pareille de managers. Et en fait, ils sont en train de jouer à un jeu. Ils font un atelier, c'est un jeu de travail, où ils ont reproduit le Trivial Pursuit, mais avec les thématiques, en fait, de l'entreprise. Et là, on est au tout début de cette activité, où ils sont en train de se séparer en équipe. D'accord ? Il y a des personnes qui sont françaises, lui, et il parle, en fait, on voit plus tard qu'il ne comprend pas l'anglais, d'ailleurs, il parle en anglais, les autres traduisent, mais on le voit beaucoup plus tard. Donc, elle parle anglais très bien, elle ne parle pas français. Ici, les personnes ne parlent pas français. Et après, il y a des personnes aussi qui parlent français, qui ne sont pas françaises, mais qui parlent français. Et regardez ce qui se passe.
Oui. If I'm going to say that you should be 4 teams, so at least normally it should be 4 teams of 3, or 3 of 3 and 1 of 2.
Three, 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 three
Qu'est-ce que tu veux, Alima, comme couleur?
Je ne vais pas le repasser pour, à cause du temps, en fait. Et on peut peut-être discuter un peu là-dessus. On a vu que la personne voilà, parle anglais et français. Est-ce que vous avez repéré qu'est-ce qui a fait que la personne a changé la langue? Donc, je fais une synthèse de choses que nous avons abordées plus ou moins. C'est que, d'une part, on voit que dans l'interaction, tous les participants influencent même de manière subtile le cours de l'action. D'accord, c'est un peu ce qu'on a vu aussi dans la conférence, enfin dans la présentation de la personne qui était en train d'avoir des problèmes avec le PowerPoint. Même des personnes du public peuvent venir influencer ce qu'il est en train de dire et la lecture de son PowerPoint, et pas seulement la personne qui est légitime pour intervenir comme la chairwoman. Même d'autres personnes peuvent le faire. Donc l'action est dépendante et configurée par le contexte, mais elle peut également donc configurer le contexte. Donc, on a dit, dans la réunion internationale, on parle en anglais. Évidemment, tout le monde commence à parler en anglais. Mais au moment où on a quelque chose à dire à quelqu'un et on veut passer le message de manière plus discrète, et en l'occurrence, c'est une personne française, on s'adresse à elle en français. Les participants utiliseront l'ensemble des ressources disponibles, multimodalité, artefacts, pour agir. C'est intéressant parce que Clémentine, elle lui a pas dit « je vais changer le PowerPoint », elle l'a fait. Au moment où elle a anticipé justement le changement du PowerPoint. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que la vidéo permet de le montrer. Ceci dit, comme on a vu aussi tout à l'heure, la personne l'a thématisé après parce qu'elle a dit « je peux changer moi-même, Mathieu ». Donc du coup, on se dit « ah, il s'est passé quelque chose, il a changé la vidéo ». On peut quand même comprendre. Mais la vidéo le rend plus visible, en fait. Il y a donc une centralité de l'organisation temporelle et séquentielle. Les participants ont des droits et des obligations particuliers en fonction du contexte et de l'interaction en cours. Et les rôles endossés par les participants peuvent être modifiés au fil de l'interaction. C'est exactement en fait le même problème de l'animateur qui finalement, enfin où, là en l'occurrence, le dernier exemple, il n'y a pas vraiment de leader pour diviser les équipes. Il y a quelqu'un qui émerge, qui devient la personne qui va diviser les équipes. Donc, très rapidement, dans les 10 minutes qui restent, je vous ai montré en fait, mais vraiment de manière très très brève, comment on peut essayer, tenter, parce que c'est pas toujours évident, saisir des phénomènes interactionnels dans des données audiovisuelles. La manière de le faire, c'est d'une part d'avoir des enregistrements et ensuite de transcrire. Vous avez vu quand nous avons une transcription, déjà on peut se focaliser beaucoup plus facilement sur ce qui est en train de se passer. Et du coup, ouais, c'est focaliser sur des détails visibles. Donc, j'essayais juste de vous illustrer la manière dont les choses peuvent se passer si on veut faire une analyse. Donc, vraiment basé sur des éléments visibles et observables d'une interaction en cours. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention très rapidement sur le processus d'enregistrement. C'est-à-dire que si jamais vous souhaitez procéder à des enregistrements pour utiliser les enregistrements comme outil de formation, ça peut être soit, je vais venir ici, je reprends. On va prendre les étapes et après je vais faire la synthèse. Donc, pour créer donc un enregistrement, il y a plusieurs étapes à respecter. D'une part, il faut choisir son terrain. Donc, c'est à vous de choisir quelle classe vous allez enregistrer, quel enseignant vous allez enregistrer. Et à ce moment-là, quand on choisit le terrain, on choisit aussi le dispositif d'enregistrement. Est-ce qu'on peut mettre des caméras ou pas? Est-ce qu'on va utiliser l'audio ou pas? Parce qu'après, il y a des contraintes aussi institutionnelles. On fait aussi avec ce qu'on peut. D'accord? Donc, deuxième étape très importante, c'est qu'une fois qu'on a choisi notre terrain, il faut absolument présenter et faire signer à tous les participants qui seront enregistrés des attestations de consentement éclairé. Dans les documents qui seront pour mon intervention, je vous donne un exemple de ce type d'attestation que vous pourrez en fait reproduire et utiliser pour vous. Où en gros, on dit, voilà, ces données ne seront pas diffusées, c'est pas à des fins médiatiques, c'est uniquement à des fins de recherche ou à des fins de formation. Et vous pouvez aussi limiter l'utilisation de ces données. Ça peut être enregistrer une classe pour faire enregistrer 2-3 enseignants pour faire la formation avec ces 2-3 enseignants, éventuellement pouvoir réutiliser ces données à d'autres formations ou pas. Donc ça, c'est des choses qu'il faut définir avec eux. Ce n'est pas toujours facile. Et évidemment, il y a des problèmes de temps aussi. Donc c'est après à vous de voir comment vous pouvez organiser ça. Ensuite, c'est l'enregistrement lui-même qui arrive. Et on voit en fait que, de manière générale, même si on a prévu un dispositif d'enregistrement, on est toujours obligé de les réajuster. Parce que, par exemple, on voit les chaises comme ça. Admettons que quelqu'un veut venir filmer la conférence de tout à l'heure. Il rentre pour voir avant comment la conférence, comment c'est distribué les tables et comment c'est l'espace. Du coup, il s'est dit, ah ben les caméras sont comme ça, je mettrai une caméra comme ça, une caméra de l'autre côté, une caméra sur le conférencier. Or, en réalité, ce qui va se passer tout à l'heure, nous, on va changer la disposition des tables. Donc, quand la personne va arriver vraiment pour enregistrer, la disposition de table ne sera pas la même. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, dans la vraie vie, ça arrive tous les jours. On croit que les personnes vont s'installer d'une certaine manière. On croit que l'intervenant, il sera à la place de l'intervenant. Or, plein de fois, l'enseignant peut circuler entre les tables, par exemple. Et si on n'a pas prévu une caméra mobile ou, d'une certaine manière, un moyen pour pouvoir avoir la totalité du champ, ben, on les rate. Et du coup, notre enregistrement vidéo est raté, inexploitable. Et c'est très compliqué si on a obtenu tous les accords, les autorisations d'enregistrement, de ne pas pouvoir montrer des choses après. Vous voyez, c'est un engagement aussi moral, parce qu'à partir du moment où on fait l'enregistrement, il faut aussi pouvoir faire un retour là-dessus. Donc ensuite, une fois qu'on enregistre, donc il y a la numérisation. Il faut tout rentrer dans l'ordinateur a priori, parce que voilà, on va essayer de l'exploiter, découper des petits extraits, les réécouter à plusieurs reprises. L'archivage est très important aussi, c'est d'autant plus important si vous avez plusieurs caméras, parce que très vite on peut se perdre en fait. Si on a plusieurs heures d'enregistrement avec 2 caméras, c'est vraiment très important de donner un code, par exemple caméra 1 côté fenêtre, caméra 2 côté porte, et matin 1, 2, 3, et soir 1, 2, 3, et voilà. Vous voyez, comme ça en fait vous codez vos archives audiovisuelles et vous pouvez vous retrouver très rapidement. Et ensuite, avec aussi les timings, vous pouvez, plutôt que découper les extraits, c'est dire, l'extrait qui m'intéresse se trouve à la caméra 1, matin, côté fenêtre, à la 32e minute. D'accord ? Et du coup, je peux aller directement à ces moments-là. Donc, ensuite, il y a l'analyse. Et enfin, il y a le traitement de données, où des fois, on peut faire du montage ou de l'anonymisation. Et le traitement des données, en fait, va venir une fois qu'on sait ce qu'on veut présenter. Dans un premier temps, on ne touche pas aux données, on les regarde en tant qu'elles. Et ensuite, en fait, on essaye de faire ressortir, à des fins de présentation, le phénomène. D'accord ? Donc, pour utiliser les enregistrements vidéo en tant que ressources pour la formation, sur la base, en fait, de ce qui s'est fait déjà, sachant que c'est assez récent et il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font avec des interactions authentiques. Il y a des formations qui se font, mais avec des acteurs, par exemple, où ils enregistrent des jeux de rôle avec des acteurs et ils les montrent pour dire, voilà, l'interaction se passe comme ça. C'est aussi bien. L'intérêt des interactions authentiques et en plus avec des personnes, les stagiaires impliqués dans les enregistrements, c'est qu'on va les sensibiliser sur leur propre pratique. Donc, de manière générale, pour vous, vous avez intérêt de créer un répertoire d'extraits qui vont illustrer des bonnes pratiques, des choses qui peuvent marcher. Et on ne vous conseille pas de choisir d'extraits d'échecs. Un enseignant, par exemple, où il y a un blocage ou une rupture, comme je vous ai montré là, parce qu'effectivement, bon, ben, c'est pas bon pour les répertoires. Par contre, si vous avez des films avec des stagiaires, à ce moment-là, c'est intéressant peut-être de venir sur des troubles, mais faire très très attention à la manière dont c'est présenté, en déculpabilisant les gens. Et d'ailleurs, le fait de s'attacher à l'interaction et aux ressources interactionnelles des participants vous permet de sortir en fait d'interprétations catégorielles qui peuvent gêner les stagiaires aussi. Enfin, Donc ça peut être aussi un moyen quand vous n'avez pas beaucoup de temps, par exemple faire une analyse vraiment objective de ce qui est en train de se passer au niveau des catégories, bah, de s'accrocher uniquement à l'interaction, donc à la parole, au geste, au regard, et de dire voilà, là ça bloque, là finalement l'élève il participe pas, mais en même temps on les regarde pas, d'accord, il est, enfin par exemple. Et donc ouais, ça peut être intéressant. Essayez aussi dans la formation d'écrire l'apparition d'un ou deux phénomènes, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'essayer de tout décrire parce que de toute façon, vous n'aurez pas le temps. Je ne sais pas combien de temps durent vos formations, en fait, de manière générale. Elles durent une journée ou une demi-journée, plusieurs journées? Ça dépend aussi. Voilà, par exemple, si une formation de 3 journées, un enregistrement et son exploitation est envisageable parce qu'on l'a déjà fait. Il faut enregistrer la première demi-journée, les personnes qui acceptent. La deuxième demi-journée, bah, il faut qu'ils travaillent sur quelque chose et vous travaillez sur les données. Et ensuite, le lendemain, vous commencez à présenter des extraits. Et vous, ce qui est intéressant, c'est de lancer les débats sur ce qui se passe. Et vous-même, du coup, par le débat, vous allez pouvoir comprendre quels sont les enjeux pour les uns et les autres, parce que les gens vont vous montrer pendant la formation ce qui les touche le plus, chacun. Quelqu'un, ça sera plus des questions de genre, quelqu'un d'autre, ça sera plus des questions de hiérarchie, par exemple, des choses comme ça. Donc, vous allez pouvoir aussi vous situer par rapport à vos stagiaires et essayer donc d'être des meilleurs conseils. Et évidemment, garantir la confidentialité des données, l'anonymat. Et voilà, vraiment essayer de se focaliser sur l'interaction, ce qui a comme effet, en fait, la déculpabilisation aussi, d'accord, de la part des participants, parce qu'on se focalise sur l'interaction, ben finalement on voit que c'est des choses normales et que c'est un ensemble de choses qui font que on agit ou c'est interprété d'une manière ou d'une autre. Donc finalement, enfin, c'est, on n'est pas forcément bon ou mauvais, et en tout cas on nous donne peut-être une chance supplémentaire. Et donc l'objectif, c'est de sensibiliser les enseignants sur leur propre pratique. Et je prends juste 2 minutes. Si vous vouliez, bon, là, on ne va pas sortir les caméras, mais admettons si on voulait filmer cette séance d'aujourd'hui, cette intervention. On a 2 caméras et un enregistreur. Où vous placez les caméras et où vous placez l'enregistreur? Enregistreur audio et 2 caméras, admettons avec trépied ou sans trépied. Bon, là, je n'ai pas le trépied, mais. Donc, oui? Il faut prendre qui ? Il faut avoir l'ensemble de participants, il faut avoir l'audience, et il faut avoir la personne qui parle, et il faut avoir peut-être aussi le PowerPoint. Parce que l'avoir par ailleurs, c'est intéressant, mais le problème, c'est que c'est différent de l'avoir, enfin, de vraiment voir où la personne montre, à quoi elle fait référence. Donc, où est-ce que vous placez les caméras ? Très bien, et c'est bien que vous la mettez là, parce que, bon, après, il y a des dispositifs. Voilà, après, ça dépend aussi, on ne sait pas comment l'interaction va évoluer, mais effectivement, avoir une caméra là-bas pour les présentateurs et les PowerPoint, sachant qu'on aura de dos tous les participants, et une caméra sur le côté aussi, en essayant d'avoir tous les participants, mais ici, si les participants ils se tournent le dos, déjà, on ne les voit pas, et si jamais ils bougent, ils peuvent cacher aussi des gens qui sont sur le même axe qu'eux. Alors, la mobile, le problème, c'est qu'on peut gêner l'activité en cours. Oui, de toute façon, on n'aura pas tout. Hein. Et de toute façon, le champ des caméras, on dit très bien, c'est une sélection aussi. Hein. Là, ce qu'on a avec les caméras dans les enregistrements, ce n'est pas la réalité de ce qui s'est passé, que ça soit bien clair. Mais c'est déjà quelque chose, c'est déjà une ressource pour pouvoir travailler dessus. Donc, éventuellement, on peut aussi mettre la deuxième caméra plus en avant, avec un grand angle, si on en a, ou de ce côté, pour pouvoir avoir les gens plus en face, en fait. Mais effectivement, ces décisions-là, elles seront vraiment déterminées par le dispositif, l'espace et le reste des choses. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je suis arrivée à la fin de l'intervention. Bon, de toute façon, il y aura une discussion générale, je pense, sur les 3 interventions. Donc, on n'a pas besoin de... Voilà, donc... Oui? Apparemment, non. Non. Mais je reste, donc il y a mon mail, je reste à votre disposition. Je vous donnerai des documents, un article vraiment de référence pour introduire l'analyse conversationnelle écrite en français, les conventions de transcription élaborées par les laboratoires ICAR, qu'on appelle donc les conventions ICOR, qui vous servent justement à transcrire à l'écrit ce qui est dit et la manière dont c'est dit. Et je vous donnerai également le PowerPoint pour tous les éléments. Et par contre, je ne pourrai pas vous donner les extraits. Voilà. Donc, en plus, ce n'est pas vraiment dans le domaine, donc c'est peut-être moins pertinent.